Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Que Dieu soit béni, on est heureux de se retrouver ce matin pour partager le conseil de Dieu pour nos vies. Donc on est dans le cadre de l'intimité de Dieu, on s'est déjà vu trois fois et on fait une étude systématique ou textuelle, comme on peut dire, du psaume 139, qui est un psaume de David. Je vais le relire en entier ce matin dans la traduction Parole de vie, qui est une traduction qui a été faite notamment pour les pays d'Afrique francophones. Donc c'est une traduction qui est en français très courant. Je l'aime bien dans ce psaume. Il y a pas mal de choses qui mettent en avant certains points qui me semblent important, et je vous fais donc la lecture de ce psaume. Il y a 24 versets, merci d'être très patient avec la parole de Dieu. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre des jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. Oh, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. La dernière partie. Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais. Si tu chassais loin de moi les assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres. Ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux. Et conduis-moi sur ton chemin, son chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Amen. Et donc on va voir cette dernière partie aujourd'hui et dimanche prochain. Dans l'intimité de Dieu, du Dieu infiniment juste, saint et amour. C'est le premier point qu'on va voir ensemble ce matin, mais après avoir présenté les doctrines sublimes de l'omniscience et de l'omniprésence et de l'omnipotence de Dieu au travers des trois strophes précédentes du psaume 139. David va dans cette dernière partie de son psaume invoquer Dieu tout en avouant sa détestation des méchants. Et en parallèle, sa soumission immédiate à un examen minutieux de Dieu. En réalité, nous voyons dans la fin de ce psaume se juxtaposer la réprimande des hommes méchants et le réconfort des hommes pieux comme les déductions implicites des doctrines concernant les attributs de Dieu. C'est-à-dire ce que David chantait avant dans les trois premières strophes, ce qu'il avait composé et écrit, puisque ce psaume est un chant, comme tous les psaumes d'ailleurs. eh bien, découle directement de l'omniprésence, de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu. C'est en effet parce que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent qu'il peut manifester une véritable justice. Cette justice est donc la base de sa sainteté. Il n'est donc pas difficile de constater que dans cette quatrième et dernière strophe du psaume 139, le ton va changer radicalement. D'ailleurs, on pourrait se dire, est-ce que, franchement, ce qui est dit là fait partie du reste ? Il y a comme quelque chose, quand on le lit d'une manière assez abrupte, brutale, sans réfléchir de trop au travers de ce que David déclare, on se dit, mais pourquoi il finit son chant comme ça, quoi ? Tout était bien, il parlait de l'omnipotence, de l'omniprésence de Dieu, de son omniscience, du Dieu qui sait tout, qui voit tout, ce Dieu qui l'a créé. David magnifie vraiment l'Éternel et d'un seul coup, on voit que la dernière partie est quand même très brutale, au point de se dire, mais comment il peut en arriver à dire de telles choses, à réclamer de telles choses ? Pas difficile de constater que la quatrième strophe, le ton change radicalement. Alors que les 18 premiers versets décrivaient admirablement les trois attributs de Dieu qui contribuent à notre apaisement, à notre encouragement, David finalise son psaume par les conséquences des attributs de sainteté et de justice de Dieu. Au verset 19 et 20, dans la traduction Osterval, il est écrit « Ô Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant ? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. » Et dans ces deux versets, David invoque non seulement la justice de Dieu, mais les conséquences qu'elle a sur les méchants et sur lui-même. Et lorsque nous réfléchissons ordinairement à la justice, ou plutôt à l'injustice, ça réveille des choses en nous. Nous sommes naturellement influencés par notre nature pécheresse pourtant. Et est-ce que, à votre avis, la nature pécheresse a tendance à générer de la justice ou de l'injustice ? Évidemment, de l'injustice. Étant donné que le péché est une transgression de la justice divine, l'homme pécheur demeure sans cesse éloigné de la véritable justice. Il vit donc sous la condamnation et ne parvient pas à discerner le bien du mal. Le prophète Ésaïe, au chapitre 64 et au verset 5 de son livre, va écrire « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Dure réalité que celle que nous confrontons au travers des textes bibliques de notre capacité à être des injustes. Malgré cela, la justice demeure une valeur à laquelle nous tenons beaucoup. Qui aime les injustices ce matin ? Levez la main. Qui aime la justice ? Levez la main. Ah, tout le monde aime la justice, c'est bizarre ça. Personne aime l'injustice. Vous n'aimez pas l'injustice ? Sincèrement ? Vous n'aimez pas l'injustice ? Moi, j'aime ça, l'injustice. Vous allez dire, il est bizarre, ce pasteur. En effet, nous n'aimons pas souffrir d'injustice. Pourtant, lorsque nous considérons notre propre salut, nous sommes forcés de reconnaître qu'il prend appui sur une injustice criante. Un innocent est mort pour des coupables. C'est pas une injustice, ça. C'est totalement injuste. Tu es sauvé, mon frère, ma sœur, en rapport d'une très grande injustice. Je repose la question. Qui aime l'injustice ? Ah, ça commence à y avoir des mains qui se lèvent. C'est une injustice qui est à la base de notre Saint-Loup. Un innocent est mort pour des coupables, pour nous. Et la Bible annonce ce message extraordinaire que pour sauver des coupables, le plan divin consista à établir la justice en frappant un innocent. Et ce principe se retrouve dans toute la Bible. Et plus particulièrement, on le voit dans l'Ancien Testament, dans les sacrifices expiatoires. Alors aujourd'hui, avec l'époque des antispécistes, des véganes et tout ça, les sacrifices d'animaux, ça passerait mal. Pourtant, tout l'Ancien Testament, on voit les sacrifices se mettre en place. Quel était le degré de culpabilité d'un animal que l'on offrait en sacrifice? On l'appelait l'animal innocent. Et on offrait un animal innocent, voire même un animal sans défaut, sans tache. Un animal en bonne santé. À la place, il prenait lieu et place de la personne qui avait commis le péché. On frappait un innocent, on retirait la vie à un innocent pour un coupable. La Bible est remplie de cette notion. Remplie. C'est en face de la justice de Dieu que David se retrouve maintenant. Il a confronté l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Il se retrouve maintenant, directement, en face de la justice de Dieu. Si ce matin, je vous invitais à vous retrouver face à la justice de Dieu, qui veut confronter le Dieu de justice ce matin? Qui se sent prêt? Qui a les mains pures? Qui a le cœur sans tache? Qui n'a aucune arrière-pensée dans son cœur? Qui ne garde pas dans son cœur une quelconque amertume contre quelqu'un, voire même contre un événement? Qui n'a pas des pensées impures dans sa tête ce matin? Je parle même de pensées ce matin, pas que des actes. Nos pensées sont aussi condamnables que nos actes. Pour celui qui juge de toute chose, qui peut confronter la justice de Dieu ce matin? Qui peut dire ce matin, je peux me tenir debout devant le grand trône blanc et confronter la justice de Dieu? Je n'ai aucun souci avec cela. Aucune crainte, aucune peur à avoir. David se retrouve devant la justice de Dieu. La justice de Dieu ne doit-elle pas réagir en rapport de la méchanceté des hommes? Si Dieu est juste, infiniment juste, et vous savez qu'il l'est, alors sa justice ne doit-elle pas réagir devant la méchanceté des hommes? Et David dira, ô Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant? C'est assez tranché chez David. Ne feras-tu pas mourir le méchant? De par son omniscience et son omniprésence, Dieu est le témoin de la méchanceté des hommes. Il a vu toutes leurs transgressions. Il sait tout, vous vous en rappelez? Il connaît tout, rien ne peut lui être caché. Toute la méchanceté a été faite en sa présence. D'ailleurs, Spurgeon écrivait « Les crimes commis devant le visage du juge ne risquent pas de rester impunis ». Vous imaginez quand vous comparaissez à un tribunal en tant qu'accusé, le juge n'a pas vu ce que vous avez fait. Alors il va, pour juger de la situation, se baser sur l'enquête, les témoignages qui ont été donnés. Mais si le juge avait vu de ses yeux le crime que vous avez commis, il n'aurait même pas besoin de toute l'enquête et de tout ce qui est autour, il en aurait été lui-même le témoin et c'est suffisant pour qu'il établisse sa justice. Mais ce Dieu qui sait tout, ce Dieu qui est partout, ce Dieu qui voit tout, chaque péché commis est commis devant les yeux du juge. Qu'est-ce que nous pourrions dire? Je suis innocent, monsieur le juge? J'ai rien à voir dans cette affaire. Et si Dieu laissait le péché impuni, s'il se contentait de pardonner sans exercer sa justice, il renverserait non seulement sa propre justice, mais aussi sa propre sainteté, dont on parlera un peu plus loin. Et vous savez très bien que c'est impossible que Dieu puisse se fourvoir au niveau de sa justice et de sa sainteté. Dieu est donc mis quelque part en contrainte d'être juste parce qu'il est juste. Dieu est saint et il ne peut laisser le péché se manifester sans que sa justice soit mise en action. Vous savez que si demain vous êtes victime d'une violence, de quoi que ce soit, et vous décidez d'aller au commissariat de police ou à la gendarmerie porter plainte, vous déposez une plainte, et puis d'un seul coup, la personne qui vous a créé le préjudice vient vous voir et s'excuse auprès de vous. « Excuse-moi, j'aurais jamais dû, j'avais un peu trop bu, j'étais pas trop bien, excuse-moi vraiment d'avoir été violent avec toi, de t'avoir secoué, etc. » Et donc vous êtes réconcilié avec lui ou avec elle. Alors vite, vous courez au commissariat ou à la gendarmerie pour retirer votre plainte. Seulement, ce sera signalé que vous retirez votre plainte, mais elle ne sera pas retirée. Pourquoi ? Parce que la justice a été informée de quelque chose et la justice ne peut pas fermer ses yeux sur ce que vous lui avez dit. Alors elle va instruire la plainte qui a été déposée. Elle est dans l'obligation de l'instruire. La justice ne peut pas fermer ses yeux sur la connaissance d'un crime. Comment Dieu pourrait-il fermer les siens ? Comment Dieu, qui est infiniment juste, pourrait-il laisser le péché impuni ? Si nous constatons qu'avec les souverains terrestres, le péché peut rester impuni par manque de preuves, par un vice de procédure, au lieu de faire la commission rogatoire pour faire la perquisition à 6 heures le matin, les gendarmes l'ont fait à 6 heures moins 5. Vice de procédure, la personne... elle peut ressortir, elle est libérée. Ça tient à rien, des fois, la justice des hommes, pour relâcher un coupable. Et c'est vrai qu'avec les souverains terrestres, le péché peut rester impuni par manque de preuves, ou la loi peut être laissée sans exécution par manque de vigueur du juge. D'ailleurs, pour les victimes, le coupable n'a jamais pris assez lourd. Même quand la peine de mort existait dans notre pays... les gens disaient, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Eh bien, avec Dieu, ça ne peut pas arriver. Cela ne peut arriver dans le cas de Dieu. Et quand nous considérons Dieu dans la révélation de sa personne, telle que la Bible nous le présente, il nous faut maintenir en tension permanente son amour, sa sainteté et sa haine du mal. Parce que Dieu a une profonde haine du mal. Et quand on s'approche de Dieu, quand on entre dans l'intimité de Dieu, on entre dans l'intimité du Dieu plein d'amour, du Dieu qui est amour. Et ça, on en parle beaucoup aujourd'hui. Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu t'aime. L'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on parle de l'amour de Dieu ? On parle un peu moins de sa sainteté, et pourtant la sainteté de Dieu, ô combien, est importante. Mais sa profonde haine du mal, le fait que Dieu ait une profonde haine du mal, ça on en entend un peu moins parler. Oui, Dieu aime parfaitement, il est parfaitement saint, et possède une parfaite haine du mal. Et c'est en considérant toutes ces choses liées ensemble et parfaitement exercées ou appliquées que nous parvenons à envisager quelle est l'attitude de Dieu en rapport des méchants. Il faut maintenir ces trois choses. Un Dieu plein d'amour, un Dieu infiniment saint et un Dieu qui a une profonde haine du mal. La semaine prochaine, je vous parlerai de la sainte haine. La sainte haine. Pour nous, on n'arrive pas à mettre sainte et haine ensemble. Pour nous, c'est pas normal. C'est juste parce que on s'approprie le mot haine avec nos cœurs de pécheurs. C'est comme la jalousie, la sainte jalousie de Dieu. Pour nous, la jalousie, elle est teintée de péché. Mais la jalousie de Dieu est pure. Sa haine est parfaitement pure. Et donc, il faut considérer ces choses liées ensemble et parfaitement exercées ou appliquées par Dieu pour qu'on parvienne à envisager quelle est l'attitude de Dieu en rapport des méchants. On peut lire dans le livre de Nahum, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit prophète, au chapitre 1er, versets 2 et 3, il est dit « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge deux fois. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge trois fois de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. » Est-ce que c'est l'image que vous avez de votre Dieu? Est-ce que vous ne seriez pas tenté, même, si on vous disait, mais ton Dieu est un Dieu vengeur, ton Dieu est plein de colère, il est plein de fureur, c'est un Dieu rancunier. Tu dirais, ah non, mon Dieu, il n'est pas comme ça. Mon Dieu, il est plein d'amour. Mon Dieu, il pardonne. Non? Est-ce que tu ne défendrais pas Dieu de ce qu'il est? Pourtant, le prophète Nahum a l'air de dire que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui se venge, qui garde rancune. Certes, il est lent à la colère, mais il ne laisse pas les choses impunies. Difficile de défendre Dieu contre lui-même, vous ne trouvez pas? Ou alors c'est tout simplement qu'on n'a pas compris ce que déclare Nahum. On n'a pas compris ce qu'écrivait David. Nahum prophétisa que l'Éternel est jaloux en ce qu'il ne supporte pas l'outrage. On ne se moque pas de Dieu. Et quand les méchants l'ont provoqué, il se venge, dans le sens qu'il va établir, à la suite du comportement des méchants, de quoi rétablir la justice. Ce verbe « venger » trois fois répété dans ces versets atteste que l'Éternel fait de la cause de son peuple sa cause personnelle. C'est lui qui est offensé. C'est lui qui se venge. Alors que c'est son peuple qui est maltraité, Dieu prend sur lui les choses. Quand il te touche, c'est à moi qu'il touche. S'ils te font du mal, c'est à moi qu'ils font du mal. C'est lui qui est offensé, c'est lui qui se venge. De là la certitude du jugement annoncé et donc de l'inutilité de devoir tirer vengeance ou justice par nous-mêmes. Pourquoi je voudrais tirer vengeance? Pourquoi je voudrais rétablir moi-même la justice alors que Dieu dit « Ce qui t'est fait à toi, c'est à moi que ces choses sont faites. Je ne suis pas ignorant du mal. Je ne suis pas ignorant des injustices. » Mais c'est à moi de m'occuper de ces choses et pas à toi. Paul prendra dans une logique de continuité biblique, parce que la Bible, ce n'est pas un Ancien Testament, et puis on l'oublie, puis on entre dans un nouveau. Non, non, la Bible, c'est une continuité. Et on voit que dans le Nouveau Testament, les notions de l'Ancien sont toujours présentes. Et Paul, dans une logique de continuité biblique, l'ensemble de ces notions tirées de l'Ancien Testament vont ressortir, comme dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, dira Paul. Bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et dans ce verset, l'apôtre fait allusion à un autre cantique qui avait été écrit par qui ? Par Moïse, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 35. «
À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » Moïse écrivait les paroles inspirées de Dieu sur le fait que Dieu tirera vengeance, que Dieu jugera à un moment donné. Et quand nous lisons aujourd'hui de telles choses concernant notre Dieu, nous sommes remués, pour ne pas dire choqués par tous ces termes. Colère, jalousie, vengeance. Toutes ces choses qui sont appropriées à Dieu. Mais quand il est question de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut éloigner ce sentiment. Il faut éloigner de ses sentiments tout ce qui chez l'homme implique en pareil cas une notion de péché. C'est-à-dire ce qui provient de la vanité ou de l'égoïsme froissé. Ce n'est pas par vanité ou par égoïsme froissé que Dieu réagit avec colère et avec fureur. Nous devons comprendre que l'Éternel ne laissera pas impuni le coupable, mais qu'il le considère comme responsable et qu'il le jugera. La notion même de grâce dans le message du salut en Jésus-Christ met en avant quoi ? La volonté de justice divine. Si Dieu n'avait pas une volonté de justice, pourquoi aurait-il mis en place la grâce ? Il nous laisserait faire nos péchés, commettre des injustices, il ne relèverait rien. Mais le fait qu'il a mis en place la grâce dans son plan de salut vient nous prouver que notre Dieu est un Dieu de justice, qu'il poursuit la justice. Ce que Dieu voulait dans l'Ancien Testament, il le veut encore dans le Nouveau. Dieu ne change pas. Le Dieu saint de l'Ancien Testament est encore le Dieu saint du Nouveau Testament. « Oh, mais il y a la grâce !» Oui, mais attention, la grâce, ce n'est pas une excuse pour vivre selon la chair, pour altérer les caractéristiques de Dieu. « Oh, mais maintenant, Dieu n'est plus justice, il n'est que amour !» Mon œil. Et les hommes sont bien trop souvent enclins à penser que, parce que la méchanceté est impunie pendant un certain temps, alors elle est pardonnée. T'as fait une démarche par rapport à ton injustice, la manière dont tu t'es comporté, les offenses que tu as faites, les blasphèmes que tu as faits, les péchés que tu as pratiqués. Non, j'ai rien fait. Mais Dieu, c'est bon, hein ? Pourquoi tu dis que c'est bon ? Parce qu'il ne s'est rien passé. Et tu crois parce qu'il ne s'est rien passé ? Pour Dieu, c'est bon. J'ai fait mon service militaire en gendarmerie quand j'étais jeune, il y a des années. Et j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé. Je me suis rendu compte de ce qu'était la justice des hommes. Ou quand la justice peut vous rattraper. Un homme, alors qu'il était jeune homme, avait commis des méfaits. Et puis il avait pris un sursis de 6 mois. Sursis de 6 mois. Et donc, il n'avait pas été incarcéré. Et puis, ce gars a mûri. Il s'est marié. Il a eu un petit bébé. Et je ne sais pas pourquoi, mais le juge a réouvert son dossier et a demandé à ce que le sursis soit purgé. 3 ou 4 ans après. On est venu sonner à sa porte et j'étais là. Avec le mandat de dépôt, il était 6h du matin, on l'a pris au réveil, on lui a dit « Vous êtes bien monsieur ?»« Oui. » « Le juge a ordonné votre incarcération, votre sursis vient de tomber. » « Mais monsieur, j'ai un travail, j'ai un enfant, j'ai une femme. » « Oui, mais monsieur, la justice a décidé que vous purgiez cette peine. » On lui a mis les menottes. Et on l'a emmené. Pendant des années, il pensait qu'il s'en était tiré. Pendant des années, il pensait qu'il avait échappé à la justice. La justice ne se manifestait pas et un beau matin, ça a tombé. C'est pas parce que Dieu ne manifeste pas sa justice aujourd'hui dans ta vie que Dieu ne condamne pas ce que tu fais. Tôt ou tard, la justice de Dieu te rattrapera. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et un passage comme celui-ci rappelle que la colère de Dieu s'exerce contre toute injustice et que sans repentance, il n'y a aucun pardon facile et à bon marché avec Dieu. Nous avons un moyen d'échapper à la justice de Dieu. C'est manifester la repentance. Chose qu'on entend de moins en moins bizarrement. Quand vous relisez certains textes de revivalistes, vous aviez un certain Finet, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que Finet dit ou fait, mais ils avaient ce qu'on appelle le banc des pénitents à cette époque-là. C'était un peu bizarre dans les églises. Alors vous êtes les pénitents, d'accord? Ok, vous jouez le rôle des pénitents. Alors en fait, qui étaient ces pénitents? C'était les gens qui arrivaient à l'église, qui n'étaient pas forcément des chrétiens, nés de nouveau, affermis dans les voies de Dieu. Alors on le disait, mais vous ne pouvez pas vous asseoir avec les saints. Vous devez vous mettre à part, on ne mélange pas le saint et le profane. Et le temps que vous n'aurez pas fait une repentance audible par toute l'assemblée, vous ne pourrez pas intégrer l'assemblée des saints, vous êtes mis à part. Imaginez qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles personnes qui viennent, asseyez-vous sur le banc des pénitents. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui ça ne passe pas, alors qu'avant ça passait très bien? Qu'est-ce qui a été altéré dans la mentalité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on mélange bien volontiers saint et profane? Au point qu'on ne sait plus ce qui est saint et ce qui est profane. N'y a-t-il pas des choses qui ont été altérées? Et comme le prophétise Nahum, l'Éternel est lent à la colère. Cependant, il ne laisse pas les choses impunies. Et nous ne devons pas croire que Dieu laissera infiniment sa belle création être souillée. Comme le prophétise Nahum, Dieu est lent à la colère. Mais il ne laisse pas les choses impunies. Nous ne devons pas croire que Dieu laissera sa belle création être souillée par la présence et la perversité découlant de la méchanceté. Ainsi, au temps déterminé de Dieu, il soulagera la création de tous ses adversaires. Dieu, feras-tu mourir le méchant? Bah oui. Au temps de Dieu, lisez la Bible. Dieu n'est pas universaliste. Il ne va pas sauver tous les hommes. Il fera mourir les méchants. On a du mal à l'imaginer. On vit tellement dans la grâce, nous, qu'on se dit, mais comment il peut faire ça? Dieu, notre Dieu. Pourtant, c'est bien ce que la Bible dit. Ainsi, au temps déterminé de Dieu, il soulagera la création de tous ses adversaires. Lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir. Lorsque la cuve de la colère de Dieu va déborder, ce qui va s'abattre, la manière dont Dieu va trier l'humanité. N'est-ce pas là une des réalités eschatologiques que nous annonce la Bible? Une des réalités de la fin des temps? Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17, là on est dans le Nouveau Testament. Si vous dites que le Dieu du Nouveau Testament, il est plein d'amour, plein de grâce, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de colère chez lui. Mais qu'est-ce que nous dit Pierre alors dans 1 Pierre 4, 17? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça va commencer par l'Église. L'Église, elle pense qu'elle est mise à l'écart. Or, si c'est par nous qu'il commence, alors quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? On peut prendre un autre auteur, Jean, dans Apocalypse 16, 7. Puis j'entendis une voix qui venait de l'autel et disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Sachez-le, la justice de Dieu devra s'exercer quand sa colère aura atteint les limites de sa patience et de sa grande bonté. Il est lent à la colère. Il emmagasine les faits. Mais un jour, il dira maintenant, c'est terminé, j'établis ma justice. Ainsi, comme le mentionne la Bible, chacun devra rendre des comptes à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Je sais que le message de ce matin n'est pas populaire. Hein. Voire même, on l'entend de moins en moins, donc c'est donc qu'il n'est pas très populaire. Mais je ne peux trahir le Dieu qui est le mien et occulter cette partie de lui. Nous devrions infiniment le craindre. Nous devrions l'embrasser dans tout ce qu'il est. Ne pas mettre de côté cette partie de Dieu, mais la confronter dans l'intimité dans laquelle il nous invite à entrer. Si confronter l'intimité de Dieu nous met au contact de sa justice, quel effet celle-ci aura-t-elle sur nous? Je vous ai dit, avant de commencer, êtes-vous prêts à confronter Dieu dans sa justice? Je n'ai pas entendu un « Amen » très fort. Pourtant, croyez-vous que quand vous entrez dans l'intimité de Dieu, Dieu dit « Ok, tu ne viens confronter que mon amour et mon pardon, mais pas ma justice. » Pensez-vous que quand vous vous avancez dans la prière vers ce Dieu que vous avez accepté dans votre vie, vous allez confronter sa justice? Il y en a certains qui vont me dire « Ah, j'ai plus du tout envie de prier là. J'ai plus envie d'intimité avec Dieu là, j'avais pas pensé à ça. » Et pourtant, tu viens confronter sa justice. L'intimité de Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu, nous amène évidemment à confronter le Dieu d'amour, le Dieu de sainteté, le Dieu de justice. Et David proclame « Homme de sang, éloignez-vous de moi !» Quelle doit être l'attitude de ceux qui se déclarent être les enfants de Dieu? Dites-moi. Quelle doit être leur attitude? De ceux et de celles qui n'ignorent pas sa grande justice et qui savent combien la coupe de sa colère est remplie, quelle doit être l'attitude des enfants de Dieu? De ceux qui confrontent l'amour, la justice et la sainteté de Dieu? De ceux qui se plaisent en sa présence? De ceux qui se réclament de lui, qui se sont engagés pour lui, qu'ils ne veulent faire plus qu'un avec lui? Quelle devrait être leur attitude? Dites-moi. Devrait-il être saint? Oui. Vous serez saint car je suis saint, dit Dieu. Devrait-il être amour? Oui. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Devrait-il être juste? Oui. Devrait-il haïr le mal? Bah oui. Peuvent-ils cohabiter avec les méchants? Manger le pain de leur exaction? Rester indifférent à leur brutalité, approuver leur éthique déviante? Oh, mais aujourd'hui, frère, c'est normal, hein? Les mœurs évoluent. Elles évoluent ou elles régressent? De quoi tu parles? La Bible dit dans l'Épître aux Romains, il condamne ceux qui font de telles choses, mais il condamne aussi ceux qui les approuvent dans ce qu'ils font. Premier chapitre de l'Épître aux Romains. Comment je pourrais être d'accord avec le mal, avec la pratique du mal, avec les déviances? Je ne peux pas. Qu'ils le fassent, c'est leur problème. J'irai pas leur déclarer une guerre. Mais comment je peux finir par dire « Je suis d'accord, c'est normal. On est au 21e siècle. » C'est impossible. Ou alors c'est que tu as un problème dans ton intimité avec Dieu. C'est que tu ne confrontes pas réellement son intimité. Tu ne vis pas en sa sainte présence. Tu es plutôt au contact du monde et de son esprit et de tout ce que cela distille et infuse dans ta vie. C'est pas dur d'être au contact du monde. Allume ta télé, regarde-la plus que tu lis ta Bible. Et l'esprit du monde pénétrera en toi. Regarde toutes les séries télé pleines d'adultères et l'esprit du monde entrera en toi. On est abonné à Netflix, on regarde ça du matin au soir, toutes les séries télévisées, les feux de l'amour et j'en passe. À la fin, on ne sait même plus qui est marié avec qui est divorcé de qui. Et... Ah mais moi, je regarde pas ça, moi je suis un homme. Moi, je regarde les films d'action. L'autre jour, j'ai voulu regarder un film d'action. J'étais là, j'ai dû voir, sans mentir, hein, je me rappelle plus le titre, certains doivent connaître, c'est avec celui qui avait joué dans Matrix, là, où il est une espèce de tueur à gages. Vous connaissez ? J'ai dû voir en l'espace d'une heure et demie 2000 ou 3000 personnes tuées. Mais c'était un massacre. Après, on se dit, c'est bizarre, les jeunes, ils sont violents maintenant. Ils sortent dans la ville, ils ont des kalachnikovs, ils te tuent, ils te poignardent. T'as certains jeux vidéo. En fait, t'es un criminel dans le jeu et il faut que tu tues le plus de gens. T'as même le droit de violer des femmes dans le jeu. Vous trouvez pas qu'il y a un problème ? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est souillé, tout ton corps est souillé. Tout ce que tu regardes, toutes les choses que tu confrontes, toutes les choses qui pénètrent en toi auront une influence sur ta vie et tu finiras à force par appeler le bien mal et le mal bien. Ça se fait d'une manière tellement insidieuse. Tellement insidieuse. Même les dessins animés de nos enfants aujourd'hui sont porteurs de tellement de messages. Mais c'est rien, c'est un dessin animé. Mais regarde-le vraiment avec des yeux spirituels et regarde ce qu'il est en train de transmettre comme réalité à ton enfant. Tu vas lui racheter, je te le dis, des crayons de couleur et du papier. De la pâte à modeler. Et tu vas développer sa créativité. Peuvent-ils cohabiter avec les méchants, manger le pain de leur exaction, rester indifférents à leur brutalité, approuver leur éthique déviante découlant de leur conscience souillée ou les écouter tranquillement proférer leur blasphème ? Les hommes qui aiment la cruauté, la violence, qui se plaisent dans les perversions et plus globalement dans le mal, ne sont pas des compagnons dignes de ceux qui marchent avec Dieu. Ah mais moi, c'est mes amis. Bah, t'as des drôles d'amis, toi, pour un chrétien. Comment David, nous devons apprendre à repousser les méchants ou encore à ne pas demeurer en leur présence. Est-ce qu'un homme et un autre homme peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord dans la direction dans laquelle ils veulent aller ? Dis-moi, est-ce que c'est toi qui arrives à attirer le méchant dans l'église ou est-ce que c'est plutôt le méchant qui t'attire dans... ce qu'il aime lui. C'est plus facile d'entraîner un chrétien au bar, et c'est triste ce que je dis, que d'attirer un païen dans l'église. Prends un vêtement blanc, trempe-le dans la boue. Est-ce que la boue est purifiée ou est-ce que le vêtement est souillé ? Dis-moi. Prends un vêtement blanc, traîne-le dans la boue. Est-ce que la boue est purifiée ou est-ce que le vêtement est souillé ? Ah mais moi, je suis dans le monde, mais ça ne m'atteint pas. Mon œil. Les hommes qui aiment la cruauté et la violence, qui se plaisent dans les perversions, et plus globalement le mal, ne sont pas des compagnons dignes de ceux qui marchent avec Dieu. Au psaume 1er, verset 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. Éloigne de moi l'homme méchant. Je n'ai aucune part avec lui. Je lui témoignerai de la réalité de Dieu et c'est juste la seule chose que je peux faire. Mais je ne partagerai pas sa nourriture. Je ne goûterai pas à son injustice. Je ne m'abreuverai pas au torrent souillé de sa vie. Peut-on dire qu'il serait logique que les enfants de Dieu ne supportent pas ce que Dieu condamne ? Je ne les supporte pas. Et pose-toi une question, si tu supportes tellement bien les méchants, comment ça se fait ? Alors les TTS diront, c'est parce que je suis plein d'amour et de grâce. Mais s'ils étaient honnêtes, ils diraient, c'est parce qu'en fait, je convoite beaucoup de choses de ce que eux font. Et j'en mange quelques miettes quand elles tombent de leur table. C'est l'inverse de ce qui devrait se faire. David savait mettre une distance entre lui et les hommes de sang et les hommes méchants. Mais qu'en est-il de nous ? Sans nous couper du monde, je ne vous dis pas qu'il faut qu'on vive dans des monastères et dans des couvents. Serait-il logique pour un chrétien de rechercher et de se plaire dans la présence de tels hommes ? Dites-moi, est-ce que c'est logique d'être attiré par ça ? Notre pasteur est devenu légaliste. Xavier, il a bifurqué. Ben non, je n'ai pas changé. Juste, je confronte l'amour et la sainteté et la justice ensemble. Je ne veux pas en isoler un aux dépens des autres. Mais ce matin, ce psaume nous amène à confronter la justice de Dieu. Et je ne peux pas dire, oh, j'ai fait les trois premiers, le dernier, il est trop dur, on ne va pas le faire. On arrête là l'étude du psaume 139 ensemble. Tenez pas compte des derniers versets. Ça ne nous concerne plus aujourd'hui. On est passé sous une nouvelle alliance. Là, vous pourriez dire que Xavier a changé. Il a bifurqué sévère. Qu'en est-il de nous ? Est-ce que c'est normal de chercher la présence de tels hommes ? De se plaire dans leur présence. Et pourtant. Pour David, son attitude fut claire et sans ambiguïté. C'est aussi pour ça, vous savez, qu'on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas juste parce qu'il s'est repenti de choses terribles. Parce qu'on voit juste David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a fait le péché avec Bathsheba, qui a fait tuer son mari, et qui s'est mis devant Dieu, qui s'est repenti. Si le prophète venait pas, il l'aurait peut-être même pas fait. Heureusement que Dieu a envoyé Nathan pour l'amener à la repentance. David, presque, il trouvait ça normal, l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pas tant là-dessus que David est l'homme selon le cœur de Dieu, si ce n'est que David était un homme qui sans arrêt confrontait l'intimité de Dieu. Il était un intime de Dieu et il voyait qu'il y avait une différence entre ce qu'il vivait et ce que Dieu était. Et il priait, il demandait, mais Seigneur, fais que ces pensées qui sont en toi, ces jugements qui sont les tiens, soient aussi les miens, que jaillisse le mal comme tu es le mal. Trop souvent le mal m'attire, alors que je devrais l'avoir en horreur. Je devrais le haïr d'une sainte haine, d'une parfaite haine. Pénétrer dans l'intimité de Dieu consiste à pouvoir confronter sa justice et il en résulte que nous sommes imprégnés des mêmes sentiments que Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es, dit la fameuse maxime. si tu fréquentes Dieu, dis-moi ce que tu es. Tu es comme qui ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème avec l'intimité de Dieu ? Il y a un vrai problème avec l'intimité de Dieu. Quand je parle de l'intimité de Dieu, je ne parle pas de la prière sur le pouce le matin avant de partir au boulot. Seigneur, bénis cette journée, garde-moi sur le travail, fais que je gagne mes amas, garde ma femme, mes enfants, et puis que tout aille bien. Amen. Ça, c'est l'intimité de Dieu. J'ai une vie intime avec Dieu, frère. Je lis mon chapitre de la Bible tous les jours avant de me coucher. Je rends grâce à table. Moi, je ne te parle pas de ça, là. Je te parle de l'intimité avec Dieu. De passer du temps dans sa présence. Qu'il y ait un échange entre toi et lui. Que ses pensées viennent t'imprégner. Que de confronter sa présence puisse aller changer des choses au plus profond de toi. Beaucoup de chrétiens aiment la présence de Dieu. Ils s'avancent vers lui, attirés par son amour, mais ils réalisent fort peu la dimension de sa justice. C'est pourtant dans l'intimité du Dieu d'amour et infiniment juste que nous sommes invités à entrer et remettre ainsi sur le devant de nos vies et de nos pratiques spirituelles les notions de justice de Dieu devraient permettre de réaliser la réalité du sacrifice du Christ au bénéfice de notre vie. Parce que si je confronte la justice de Dieu, je remets l'acte sacrificiel de Jésus à sa véritable place. Si je ne sais pas ce qu'est la justice de Dieu, comment je peux donner une vraie valeur au sacrifice de Jésus ? Même là, je me retrouve à avoir un problème. La valeur de Jésus dans mon cœur n'est pas celle qu'elle devrait être. Je ne suis qu'un piètre adorateur. Comment pourrait-il en être autrement ? Aucun homme ni aucune femme ne pourrait entrer dans l'intimité de Dieu et vivre en réalité. Vous le savez ça ? Quand je vous ai dit au tout début, qui veut confronter la justice de Dieu ? Vous le savez ? Vous vous dites, attends, là c'est une justice sans filtre ? C'est juste moi tout seul ? Pour ce que je suis ? Pour ce que je fais ? Pour ce que je pense ? Non mais là moi... Attendez un peu, pasteur, je ne suis pas encore prêt. On ne l'est jamais. Aucun homme, aucune femme ne pourrait entrer dans l'intimité de Dieu et vivre. Car en confrontant la justice divine en rapport de notre état pécheur, nous nous retrouverions instantanément jugés. Jugés. Sans le sacrifice expiatoire et justificateur du Christ en faveur de nos vies, il nous serait impossible d'entrer dans l'intimité de Dieu tout en soutenant sa justice et sa sainteté. C'est Jésus, le sacrifice de Jésus, son sang sur nos vies, qui nous permet de nous tenir dans la présence du Dieu infiniment juste et de ne pas être jugés instantanément. Oh Dieu, je sais, c'est un père, il me prend dans ses bras d'amour, il me serre, il me fait des bisous. Mon Dieu est un bisounours, une peluche. Efface, hein, c'est pas théologique ça, en tout cas, c'est pas biblique, c'est pas... Dieu n'est pas un bisounours. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22, il est écrit « Ainsi donc, frères, je pourrais rajouter sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Lorsque j'entre dans l'intimité de Dieu, c'est au travers de la chair déchirée de Jésus que je peux y accéder. » Vous imaginez ? L'intimité de Dieu, elle n'est pas rendue facile. Hein. Peut-être que toi, ça, tu te dis, ah ben, je me mets à genoux dans ma chambre, mais n'importe où, je prie et là, je suis en contact avec Dieu. Mais tu sais ce que ça a coûté pour que tu puisses entrer dans la présence de Dieu ? Tu as réalisé ce que ça a coûté à Jésus pour que tu puisses être recouvert de son sang et paraître devant lui sans être jugé instantanément ? au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Le psalmiste poursuivit au verset 20. Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. L'activité des méchants est ainsi définie par David. Ce sont ceux qui utilisent le nom de Dieu pour faire le mal et qui passent leur temps à blasphémer et à mentir. Blasphémer et mentir. Les méchants, toi t'aurais dit, ah mais les méchants c'est ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui coupent les gens en morceaux. Ceux qui tuent des veuves, des orphelins, qui ouvrent le ventre des mères avec les enfants à l'intérieur. C'est eux les méchants. Mais David est en train de dire que les méchants, c'est ceux qui passent leur temps à blasphémer et à mentir. Alors c'est sûr que si la notion de méchant commence là, on est mal. Je la mettais un peu plus haut, moi, la notion de méchant. Si de tels hommes parlent contre Dieu, puisqu'ils blasphèment, ton bon Dieu, oh Dieu, si Dieu il n'aurait pas fait ça. Dieu, comment on parle de Dieu? Même les chrétiens parfois parlent mal de Dieu, emploient le nom de Dieu en vain. Même les chrétiens. Si de tels hommes parlent contre Dieu, ne vous étonnez pas qu'un jour ils parleront mal contre vous. Bah ouais, s'ils sont capables de parler mal contre Dieu, alors contre toi, t'étonnes pas. C'est d'une logique. Si même Dieu, infiniment saint, infiniment grand et parfait en toutes choses, ils arrivent à mal parler contre lui, alors toi, par conséquent, les hommes impies ne sont pas ceux dont on peut se faire des vrais amis. Quelle considération ont-ils pour le Dieu qui leur a donné une langue? Ben, ils s'en servent pour mal parler contre lui. C'est fou, hein? Quand, par amour, tu donnes à quelqu'un quelque chose dont il va se servir contre toi. C'est ce que tu lui as donné. Et parce que tu lui as donné, il va s'en servir pour te faire du mal. Ah bah chapeau. Il faut être Dieu pour donner encore et encore. Vous savez que chaque don que Dieu vous fait, c'est pas juste donner comme ça. Un jour, il faudra rendre des comptes de tout ce que Dieu vous a donné, de ce que vous en avez fait. Il n'y a rien que Dieu donne sans demander des comptes. Il vous a donné des enfants et que Dieu soit béni si vous en avez. Mais vous aurez des comptes à rendre de la manière dont vous avez élevé ces enfants. Il vous a donné une langue exercée, des oreilles, des yeux. Il vous a donné des dons spirituels. Il vous a donné toutes sortes de choses. Mais comment avez-vous utilisé ces talents que Dieu vous a donnés, ces dons qu'il a faits? Croyez-vous qu'un jour la justice de Dieu passera par ces choses? Et que Dieu ira demander compte de la manière dont vous avez géré les biens qu'il vous avait confiés? Mais oui, évidemment. Ah, moi je crois qu'il l'avait donné puis que c'était bon. Ben non. Quelle considération ont-ils pour Dieu qui leur a donné la langue? Ils se sont retournés contre leurs bienfaiteurs par méchanceté et avec une grande perversité. Leur sport favori consiste à insulter Dieu quotidiennement et ils prennent un savoureux plaisir à se moquer de lui par l'impudence qu'ils ont d'assaillir son honneur et de traiter sa gloire avec irrévérence. Comment un chrétien peut se plaire à ça? Que croyez-vous que sera le sort que Dieu prépare pour de telles personnes? Croyez-vous qu'il va les border le soir pour... Et ça jusqu'à la fin des temps. Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Et vous savez comment Dieu exerce sa justice ? A-t-il préparé des choses pour faire souffrir les méchants ? Avons-nous un Dieu machiavélique ? Un Dieu qui va les torturer pour l'éternité ? Non, il va juste leur donner les fruits de ce qu'ils ont planté. Ils vont juste devoir manger pour l'éternité les conséquences de ce qu'ils ont semé. Ce sera leur châtiment. Au lieu d'y échapper par la grâce, parce qu'ils s'en sont repentis, ils cueilleront et se nourriront des fruits de leur méchanceté pour l'éternité. La pire des choses dans la vie d'un homme, c'est de recueillir les fruits de ce qu'il a semé pendant toute sa vie. Ça, c'est le plus grand châtiment qui soit. Comment pouvons-nous faire autrement que de nous retirer de toutes sortes d'associations avec de telles personnes ? La justice de Dieu qui garantit l'ordre moral ne peut pas, sous peine de se renier elle-même, ne pas condamner le péché et englober le pécheur dans ce jugement de condamnation. Elle est la sanction de notre état de déchéance et de perdition. Ainsi, tout serait dit. Si Dieu n'était que sainteté, mais, allez, ça va aider à faire avaler tout le message. Il est aussi amour. Il est aussi amour. Ainsi, sa grâce rend possible la séparation du péché. Qui reste condamné, le péché ? Et du pécheur à qui est offerte en Jésus-Christ la possibilité du pardon. En principe, est-ce qu'on condamne juste le crime du criminel ou est-ce qu'on condamne le criminel avec ? La justice a décidé de condamner votre crime, mais vous, vous êtes libre. La bonne aubaine. Est-ce qu'on condamne juste le crime ? C'est odieux ! Mais le pauvre criminel, franchement, n'a-t-il pas quelques circonstances atténuantes ? Parlez-en à sa victime. Nous trouvons ça normal que le criminel soit condamné avec son crime ? On ne va pas les détacher ? Ben, c'est ce que Dieu a fait. Il condamne notre crime et offre son pardon au criminel. Comment peut-il faire une telle séparation ? C'est que la justice de Dieu est inséparable de sa miséricorde. En réalité, nous, on n'est pas très miséricordieux. Sauf avec nos enfants. C'est mal ce que tu as fait, mais je t'aime, mon bout de chou. Faut plus le refaire. Va et ne pêche plus. Cette justice, après avoir été pour l'homme qui est perdu la preuve irrécusable de sa condamnation, devient pour le croyant, par l'assurance qu'elle lui donne de la fidélité de l'amour rédempteur, le fondement de sa certitude de salut et de vie éternelle. La justice de Dieu demeure la manifestation de sa sainteté dans ses rapports avec sa créature et son pardon offert, la manifestation de son grand amour. Comment je saurais que Dieu a un grand amour si je n'arrive pas à comprendre quelle est sa justice et ce que sa justice, de la manière dont elle pèse sur moi. Si j'arrive à évaluer la grande justice de Dieu et ce que je suis face à elle, alors dans le cadre de la grâce, je réalise instantanément quel grand amour Dieu a. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. La justice de Dieu demeure la manifestation de sa sainteté dans ses rapports avec sa créature et son pardon offert, la manifestation de son grand amour. Et je termine en citant Lévitique 11, 44. L'apôtre Pierre va écrire dans 1 Pierre, lui aussi il est dans la continuité biblique, hein, il ne fait pas la part entre Ancien et Nouveau Testament. Hein. C'est une continuité. Et Pierre va citer dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il n'y a pas des... Non. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 11 au verset 44, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et ce qui découle de la sainteté de Dieu, c'est sa justice. Pourtant, l'être humain laissé à lui-même ne peut produire aucune sainteté réelle, juste de la religiosité, c'est-à-dire mettre un vernis d'apparence autour d'un cœur souillé. On ne peut produire la sainteté. C'est impossible. La sainteté d'un être humain ne peut être une réalité que lorsqu'elle est reçue au sein d'une alliance. Dans une authentique union et une communion au Dieu créateur qui est infiniment saint. C'est pour ça que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Et davantage, au fur et à mesure qu'il est dans l'intimité du Dieu saint, il se sanctifiera de plus en plus. Ce n'est donc que lorsque Dieu fait participer l'homme à sa sainteté en étant en communion avec lui, en étant uni à Jésus-Christ par la foi dans la puissance du Saint-Esprit, que l'être humain est saint. Car il participe gracieusement à la sainteté de son Créateur. C'est lorsque nous sommes unis à Christ par la foi que le pardon, la réconciliation, la justification et la sanctification dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont alors une réalité pour nous, une possibilité d'entrer dans l'intimité de Dieu. Cette réalité n'est autre que la grâce de la nouvelle alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ. Et je termine là-dessus. Il découle également de tout ceci, et parce qu'un jour le jugement aura lieu, que les chrétiens peuvent avec confiance faire quoi ? Se pardonner les uns aux autres, pardonner à ceux, à celles qui les ont offensés. Pourquoi je peux les pardonner ? Parce que justice a été faite. Et si elle n'a pas été faite, elle le sera, mais ce n'est plus mon problème, moi. Alors je peux pardonner. Parce que pardonner, c'est laisser à Dieu le soin de juger. Quand je pardonne, je ne juge pas. Je m'interdis de juger en pardonnant. Est-ce que pour autant Dieu pardonne ce que moi je pardonne ? Je vous ai dit, si tu portes plainte et que tu te mets finalement d'accord avec celui qui t'a fait le mal, c'est bien, mais ce n'est pas pour autant que la justice va l'oublier. Pardonner, ce n'est pas laver, c'est te libérer de ce qui brise la communion avec l'autre. C'est résoudre la question de l'amertume dans ton cœur, de la colère, de la vengeance. Dieu s'en charge. Parce que pardonner, c'est laisser à Dieu le soin de juger. C'est exprimer au Seigneur sa colère et son ressentiment. Oui, tu peux. Vaut mieux exprimer sa colère à Dieu et son ressentiment à Dieu que l'exprimer à l'autre en face. Mais pas juste pour l'exprimer et puis repartir avec, pour la déposer à ses pieds. Je suis en colère. Je ne sais pas si je pourrais dire je suis rempli d'une sainte colère de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, de la manière dont les choses ont été faites. Il faut pouvoir le dire. Hein. Avant de dire je suis rempli d'une sainte colère, regardez bien si elle est bien sainte. Mais Seigneur, ça, je le dépose à tes pieds. Et alors, je peux aller vers mon frère et vers ma sœur, parce qu'il n'y a plus rien qui me sépare de lui. Parce que je sais que si justice doit être faite, c'est toi qui feras justice. Je n'ai pas juste à me réconcilier avec mon frère et ma sœur. Ça, c'est juste pour remettre la communion entre moi et lui. Mais j'ai à me réconcilier avec lui. Ainsi, si un jour quelqu'un vient te demander pardon, ou si toi tu vas demander pardon à quelqu'un, ne te dis pas que juste te réconcilier avec lui, ça va suffire pour Dieu. Tu as besoin aussi de te tenir devant Dieu et de traiter aussi ça avec lui. Il faut se réconcilier les uns avec les autres et se réconcilier avec Dieu. C'est tellement important. Ça, c'est confronter la justice et la sainteté de Dieu. Et ne pas dire, parce qu'il est amour, tout va passer. Je vous le dis ce matin, rien ne passera qui n'ait pas été traité avec lui et avec nos frères et sœurs.